Les codes de couleur. Bon, la population regarde ça aller, le nombre de cas par jour. On nous a dit, avant qu'on passe en confinement général au Québec, on nous a dit la cible, c'est en bas de 20 cas par jour dans le Bas-Saint-Laurent. Ce qu'on a depuis quelques jours, c'est plutôt faible. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que depuis plusieurs semaines, c'est en bas de 20 cas. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez devoir endurer votre mal pareil jusqu'au 11 février. Puis ce qui va arriver après, on le sait pas trop. Est-ce que vous pouvez nous rassurer ce matin, Dr Leduc, en nous disant que si en date du 11 février, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, qu'en date du 11 février, que la santé publique québécoise envisage pas de garder tout ce monde-là en confinement parce que Montréal sera encore dans le rouge?
Ben, j'ai pas de boule de cristal, mais je vais vous dire que si la situation est aussi catastrophique un peu partout au Québec en matière d'hospitalisation au 11 février, c'est sûr qu'on fera pas en sorte que toutes les autres régions qui ont pas de problème se mettent à en avoir 2 à 3 semaines plus tard. Parce qu'en ce moment, d'abord, le confinement, quand on parle de la restriction d'ouverture des commerces, ça s'applique avec une loi qui s'applique partout dans toutes les régions. Donc, ça ne m'appartient pas de faire des modulations par région, mais on va se le dire entre nous, c'est peu plausible. Puis, les codes de couleur, ben à partir du moment où on reviendrait en orange, pensez-vous vraiment que c'est le temps d'ouvrir les bars puis les restaurants en ce moment, alors que tous nos hôpitaux manqueraient de lits et de personnel? Alors, il faut lire un peu les astres, voir ce qui se passe. Oui. Et dans le fond, c'est peu plausible, mais tant mieux si notre situation est préservée. Il faut le prendre comme ça aussi. Ça nous protège aussi, ces restrictions de rassemblement.
Mais Dr Leduc, en même temps, il y a probablement quelque part dans l'opinion publique, et ça, la santé publique le sait, il y a comme une ligne à ne pas franchir. C'est que tant et aussi longtemps qu'on est capable de faire la démonstration qu'il y a un risque, autant pour les hospitalisations, le délestage du système de santé, on est capable de comprendre ça, mais on s'expliquerait très mal qu'on soit revenu, mettons, au mois de février ou au début de mars, à la situation où on était en mars passé, par exemple, et qu'on se retrouverait tout à coup dans une situation qui serait pire que ce que c'était, je dis en mars, là, mais je vous induis en erreur, mettons ce que c'était en février l'année passée, qu'on serait à peu près au même point là et qu'on déciderait tout à coup qu'on n'a plus le droit d'aller dans les commerces, on n'a pas le droit d'aller dans les restaurants, même si la limite serait de 6 personnes et pas plus. Je peux pas me résoudre à penser, moi, que la santé publique provinciale garderait du mur à mur alors que des conditions pourraient être idéales à partir de grandes régions du Québec, là.
Ben, il y a beaucoup d'aspects à votre question. Le premier, c'est que je comprends que tout le monde est tanné. Ça, c'est un aspect sur lequel on va tous s'entendre. On est tous tannés. Tant mieux quand on va pouvoir revenir à plus de normalité. Si on jette un petit coup d'œil là, à des pays qui ont essayé de relâcher leurs mesures en ce moment, là, cet hiver, là, qui ont essayé ça tout récemment, je vais vous citer 2 pays, l'Irlande, la République tchèque. Quand ils ont réouvert leur commerce, leur bar, leur resto et leur gym parce que ça allait bien, ils se croyaient en contrôle, 2 à 3 semaines plus tard, c'est parti au plafond. Alors, l'hiver, c'est difficile avec des virus de cette nature-là de relâcher trop rapidement et il va falloir voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis l'autre aspect, puis je reviens tout le temps, on fait partie d'un ensemble de régions au Québec. Si toutes les autres régions du Québec, sauf 2, vont bien, on peut pas se déclarer, nous autres, on ciao bye la gang, occupez-vous de vos problèmes, puis nous autres, on va aller dans nos commerces. Là, ça me paraît difficile à défendre, en tout cas, et ça me paraît peu plausible.
OK. On vient d'accepter un nouveau masque qui, jusqu'à hier encore, était sous étude. Est-ce que en soi, c'est une nouvelle qui vient changer quelque chose pour les professionnels de la santé particulièrement?
Ben, dans l'immédiat, c'est rassurant de savoir qu'on a davantage d'équipements parce que c'est un des aspects qui était compliqué, je vous dirais, il y a environ un an quand on se préparait pour les périodes qui s'en viennent. Si en plus le fournisseur est québécois, c'est une bonne nouvelle aussi parce que pour l'approvisionnement, ça va nous aider. Donc, c'est plusieurs bonnes petites nouvelles. Maintenant, au quotidien, est-ce que ça va changer ça? Il faudra le voir dans les prochaines semaines.
OK. Test de dépistage maintenant. On parle de nouvelles formules. Bon, dépistage rapide. Plusieurs disent, ben, coudonc, même si on n'est pas certain que c'est efficace à 100%, allons-y pareil, c'est mieux que rien. Vous, vous en pensez quoi?
Les tests rapides sont moins bons. Alors, il faut les utiliser dans certaines circonstances, particulièrement quand les gens sont malades. Et particulièrement aussi quand une région est débordée, par exemple, dans ses laboratoires, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'attentes pour avoir les résultats qu'il faut trouver d'autres options. Dans notre région, c'est pas le cas. C'est pas notre problème. On a vraiment des laboratoires qui fournissent à la demande. On a nos résultats très rapidement. Alors, pour l'instant, on est capable d'avoir les meilleurs tests rapidement. Donc, il n'y a pas de raison de passer aux tests rapides dans notre région pour le moment. Mais par contre, il y a d'autres régions du Québec, on le comprend, qui, eux, ont tellement de cas chaque jour que ça peut être des options, mais encore dans certaines situations bien ciblées. Par exemple, ces tests-là, ils testent pas bien les gens qui n'ont pas de symptômes. Alors, ça nous donne une indication quand quelqu'un est malade, ça nous donne rapidement le résultat, mais quand il n'est pas symptomatique, ce ne sont pas des excellents tests.
Bien. Deux autres questions, puis après, je vous laisse tranquille. Paraît-il qu'on pourrait tester par gargarisme et que cette forme-là serait même en marche dans le secteur de Matane? Ça vous dit quelque chose ou ça vous dit rien?
Oh oui, non, ça me dit quelque chose. C'est quelque chose qu'on teste déjà depuis plusieurs semaines et qui a été autorisé. Donc, on a fait des validations. En fait, le gargarisme, il permet de remplacer la tige que l'on insère dans le nez jusqu'à la gorge là, pour certains cas. Alors, en ce moment, dans certaines situations, particulièrement chez les travailleurs là, chez qui on fait plusieurs tests à toutes les semaines, par exemple, ou à tous les deux semaines, ça peut être plus... inconfortable d'être testé chaque semaine, alors c'est une option qui s'ajoute. Donc, c'est une autre bonne nouvelle.
On se gargarise maintenant, avec quoi?
Ben, c'est de l'eau qu'on met avec certains produits qui permet d'aller chercher les cellules plutôt que d'aller les chercher avec le coton-tige habituellement. Donc, ça nous donne une option de plus pour un test qui est plus facilement acceptable. Maintenant, il n'est pas largement répandu. On est encore au stade là, de l'étendre par petits groupes là, parce qu'on n'a pas la capacité en ce moment d'en faire le test pour tout le monde.
Bien. C'est pas parce qu'on manque d'eau, c'est parce qu'on manque de produits.
Un peu de tout ça, oui.
OK. Dernière question, Dr Leduc. Radio-Canada affirme que 600 chirurgies ont été repoussées à Rimouski. Un, est-ce que c'est vrai? Puis deux, quelle est la statistique pour Rivière-du-Loup?
Ben, pour ce qui est de Rimouski, mon collègue Dr Carvalho hier a établi ça là, avec son équipe. Donc, c'est un fait qu'on a dû, à Rimouski principalement, retarder des chirurgies parce que notre personnel, on doit l'affecter à différents services. Et ça nous oblige à ralentir les activités du bloc opératoire. Ça, c'est ce qu'on voit partout au Québec en ce moment, là où il y a de la COVID. Pour Rivière-du-Loup, on a été moins affectés, on a moins de retard dans les chirurgies. Malheureusement, oui, c'est vrai que dans les chirurgies qu'on appelle électives, nos listes d'attente, même à Rivière-du-Loup, si on les compare cette année à celles qu'on avait l'an dernier, elle est un peu plus longue. Alors, ça veut dire que même nous, quand il n'y a pas eu d'hospitalisation beaucoup pour COVID-19 à Rivière-du-Loup, ça a quand même généré certains retards d'activité parce qu'on déplace du personnel, parce qu'on a des gens qui sont malades.
Oui.
Alors, ça a fait tout ça. Notre situation, le fait qu'on n'ait pas beaucoup de cas, ça nous aide. Hein? Ça nous aide, oui. Ça diminue les activités, ça diminue les répercussions de délestage, mais ça n'amène pas un délestage zéro. Oui. C'est ça qui est malheureux.
Sous question, Dr Leduc, est-ce qu'on est prêt donc à recevoir éventuellement des patients COVID qui pourraient venir d'ailleurs, voire même peut-être de faire des opérations électives ici qu'on aurait pu faire ailleurs?
En ce moment, on n'en a pas. Mais en ce moment, le gouvernement, quand il voit le nombre d'hospitalisations partout qui part à la hausse et le nombre de lits en soins intensifs également qui monte chaque fois, nous demande, toutes les régions, y compris la nôtre, de se préparer au cas à recevoir des patients qui pourraient provenir de d'autres régions. Maintenant, ce n'est pas le cas encore, mais oui, on doit se préparer.
Bien, merci Dr Leduc, merci pour votre temps.
Ça a été un plaisir, puis à la prochaine, au revoir.
Merci, au plaisir.